France Inter.
Bonjour à tous, au sommaire de ce lundi 14 avril. France-Algérie, les deux pays vont-ils parvenir à normaliser leurs relations? L'Algérie expulse 12 fonctionnaires français en rétorsion à l'arrestation de 3 Algériens, dont un agent du consulat. 40 milliards d'euros à trouver pour le prochain budget, oui mais comment? Le ministre de l'économie ambiance les chefs d'entreprise à travers un tout nouveau conseil des entreprises. La chasse aux fraudeurs pour redresser les comptes de l'assurance maladie, c'est ce que préconise la Cour des comptes ce matin, Agnès Soubiran.
La Cour des comptes qui fixe un objectif pour 2029, 1,5 milliard d'euros de fraude détectée et stoppée, c'est un peu plus du double qu'aujourd'hui. Il faut pour cela plus et mieux contrôler. Nous verrons qui et comment.
Dans ce journal aussi, retour sur le bombardement russe de Soumy en Ukraine. La Russie vise tout particulièrement les centres des villes en ce moment. Nous irons à Vivonne dans la Vienne. Un escadron de 90 gendarmes est en renfort pour retrouver Agathe, cette joggeuse de 28 ans. Des prisons modulaires plus rapides et plus souples à construire. Gérald Darmanin présente ses plans pour construire 3 000 places, Ariane Grissel.
Oui, fabriquées à part dans un atelier, puis déposées sur le terrain, ce qui ne prend que quelques mois, dit le ministre, contre 7 ans pour toute une prison.
La mort du prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa, il avait l'aura d'une rockstar, nous dira Jean Lebrun. Et puis si vous avez demandé la police, lisez À l'intérieur, la dernière BD immersive de Mathieu Sapin chez les flics. Après 13h30, gros plan sur l'épidémie de chikungunya sur l'île de la Réunion. 27 500 personnes atteintes, le plan blanc a dû être déclenché. On vient tout juste de franchir aujourd'hui le pic de l'épidémie. Alors où en est-on de la vaccination? Comment lutter plus généralement contre les moustiques tigres? Toutes vos questions. 01 45 24 7000. Le feuilleton de la semaine nous emmène dans les bals populaires. Les baloches à la rencontre des musiciens qui vous font valser.
On a commencé tous les deux donc, dans une harmonie municipale, hein, chez nous, là dans le Cher. Tous les deux au saxophone. Il y avait déjà une envie de faire du bal populaire. Chez nous, c'était quand même assez ancré, on va dire.
Feuilleton signé Cécile Bidot, lui il aimait les valses à mille temps, c'est dans une chanson. Frédéric Pommier rediffuse un hommage à Jacques Brel et dans C'est la France, le marathon des mots de la course à pied avec le linguiste Mathieu Avanzi et surtout pas de running. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, soyez les bienvenus.
France Inter.
La relation entre l'Algérie et la France oscille toujours entre brouille et réconciliation. Une semaine après la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui avait apaisé les choses, un nouveau motif de tension. L'Algérie a décidé hier soir d'expulser 12 agents de l'ambassade de France. Ils ont 48 heures pour quitter le pays. Sans doute une réponse à la mise en examen de 3 ressortissants algériens, dont un agent du consulat dans le cadre de l'affaire Amir Dezed. Cet influenceur algérien et opposant au régime enlevé en avril 2024 en France. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
On reprend le fil de ce nouvel épisode avec vous.
Oui, alors c'est une affaire qui débute en avril 2024. Amir Dezed, influenceur connu, 1 million d'abonnés sur TikTok et aussi opposant au régime du président Tebboune, puisqu'il a dénoncé des faits de corruption de l'armée. Conséquence, il vit en France où il est réfugié politique. Avril 2024 donc, Amir Dezed est enlevé et séquestré en région parisienne pendant 27 heures. L'enquête a permis de remonter à 3 hommes, dont l'un travaille dans l'un des consulats d'Algérie en France. Et si l'on reparle de cette affaire, c'est parce que vendredi dernier, la justice française a décidé la mise en examen de ces 3 hommes. Il faut dire que l'affaire est grave, insistait alors, lors d'un déplacement dans le Tarn, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.
La situation est grave. Elle est tellement grave d'ailleurs que c'est le parquet national antiterroriste qui dirige l'enquête. C'est un acte sans doute, peut-être, d'ingérence étrangère.
La réaction donc de Bruno Retailleau pour une affaire qui s'est donc jouée en 3 temps. Avril 2024, enlèvement du blogueur. Avril 2025, mise en examen de plusieurs Algériens. Et 14 avril, expulsion de 12 fonctionnaires français d'Algérie.
Et pourtant, Nathanaël, pourtant la tendance était à l'apaisement.
Oui, c'est vrai qu'on pensait que l'orage était passé et que le soutien français au Maroc contre l'Algérie dans le dossier du Sahara occidental n'était plus qu'un mauvais souvenir. Il faut dire qu'entre-temps, il y a eu des échanges au plus haut niveau entre le président Tebboune et le président Macron. Les deux hommes se sont parlé le 31 mars dernier avec la volonté de calmer les choses. Cela s'était vérifié quelques jours plus tard, vous l'avez évoqué, avec un déplacement du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot en Algérie. Il avait parlé d'une nouvelle phase dans la relation et la reprise de la coopération entre les deux pays. Visiblement, il ne s'agissait que d'une éclaircie dans la tempête qui souffle depuis juillet dernier entre Paris et Alger.
Nathanaël Charbonnier, on espérait effectivement une issue rapide aussi pour l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu depuis le mois de novembre en Algérie. Pour Arnaud Benedetti, le fondateur directeur de son comité de soutien, l'inquiétude revient.
Vous imaginez que ça ne peut que nous préoccuper et nous inquiéter, parce que on s'était mis à espérer, certes avec une très grande prudence et très relativement à une issue rapide, en tout cas dans une échéance qui est à peu près conforme à l'état de santé et à l'âge de Mme Sansal, et il est évident que cette tension à nouveau subite vient complexifier largement le dossier de la libération de Mme Sansal. Nous, ce que l'on demande au gouvernement français, c'est bien évidemment de faire en sorte de décorréler la situation de Mme Sansal, et on le demande également à l'État algérien, des relations qui sont certes difficiles entre Alger et Paris, mais qui ne doivent pas peser sur le sort d'un homme qui a 80 ans et qui est malade.
Boualem Sansal souffre effectivement d'un cancer. Arnaud Benedetti, interrogé par Ajra Mohamad. En France, il faudra un gros effort pour rééquilibrer les comptes. Éric Lombard, le ministre de l'économie, parlait hier de 40 milliards d'euros pour le futur budget, mais sans augmenter les impôts. François Bayrou, prêt à s'attaquer à cet Himalaya de dettes, tiendra demain la conférence des finances public pour faire un peu de pédagogie. En attendant, Éric Lombard recevait ce matin ce qu'il appelle un conseil des entreprises. Il prône une co-construction.
40 milliards d'euros, c'est cet effort qui va demander la participation de tous. Et ce dialogue, nous allons l'avoir avec toutes les parties prenantes, de façon à trouver un consensus, sachant que notre pays est trop endetté, 3300 milliards de dettes. Et pour se désendetter, il faut absolument qu'on fasse revenir le déficit sous les 3%. C'est une cause nationale. Et donc, nous allons légèrement baisser la dépense publique, très légèrement, par rapport à son niveau de 2025. Parce que toutes les Françaises et tous les Français ont intérêt à ce qu'on règle cette question de déficit excessif.
Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
En direct de Bercy, le ministre a donné le ton ce matin. Les patrons ont pu donner leur avis aussi sur les économies à faire ou à ne pas faire, de manière à ne pas être pénalisés.
Oui, avec une condition, ne pas grever la compétitivité des PME notamment, ne surtout pas aller trop loin dans la suppression de dispositifs existants qui aident les entreprises à se maintenir à flot, encore plus lorsque la conjoncture est incertaine comme elle l'est en ce moment. La CPME, deuxième organisation patronale, y sera attentive, consciente aussi qu'il faudra être ambitieux pour aller chercher ces 40 milliards dont on parle. L'UDP, qui représente les artisans, les professions libérales, a de son côté insisté sur l'importance de maintenir les aides à l'apprentissage, dont la pertinence a récemment été interrogée. Vous voyez, chacun y va de ses limites déjà dans cette concertation qui ne fait que commencer. Patrons et ministres qui multiplieront les rendez-vous toutes les 6 semaines d'ici l'automne pour ficeler au mieux ce budget serré, pour qu'il convienne au maximum à toutes les parties. Le patronat qui a en tout cas apprécié une chose, la méthode ce matin, dans cet intérêt commun, comme l'a donc dit Éric Lombard, ramener le budget de la France sous les 5% dès l'an prochain. Ne reste plus qu'à remplir les cases, ça paraît simple, ce sera sans doute le plus dur.
On l'imagine, Maxime Debs en direct de Bercy avec Frédéric Hérault, Éric Lombard qui promet que la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises instaurée en 2025 ne sera pas prolongée, elle sera transformée en outil de lutte contre l'optimisation fiscale. Le RN et la France Insoumise agitent de nouveau ce matin la menace de la censure. Et l'assurance maladie va devoir, elle aussi, faire retomber la fièvre. Pour la Cour des comptes, la situation est inédite et insoutenable. Les dépenses de santé progressent dans les 3 branches de la Sécu, maladie, accident du travail, maladie professionnelle et autonomie. Au rythme actuel, si on ne fait rien, ça veut dire que le déficit cumulé annuel des 3 branches doublerait quasiment de 2024 à 2028, passant de 11 à 20 milliards d'euros. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Et la Cour des comptes préconise donc la chasse aux fraudeurs.
Alors, des efforts ont déjà été faits grâce aux 1500 agents mobilisés et aux 400 recrutements de l'an dernier. Les caisses primaires d'assurance maladie disposent également de compétences juridiques élargies et d'échanges d'informations entre organismes plus fluides. Résultat, de 466 millions d'euros de fraude détectée et stoppée en 2023, on est passé à 628 millions l'an dernier, mais on est encore loin des 4,5 milliards d'euros de fraude estimée. La Cour des comptes fixe donc un objectif d'1,5 milliard pour 2029.
Et comment y parvenir ?
Alors, premier constat connu, les fraudes relèvent moins des assurés, 18% des montants, que des professionnels de santé. représentés, 68%, sont notamment ciblés dans le rapport les infirmiers, les kinés, les généralistes et les spécialistes, les transports sanitaires et les pharmacies. Deuxième constat, il faut relancer les contrôles des établissements de santé, contrôles suspendus depuis la crise Covid. Quant aux actions de lutte contre les fraudes de la branche autonomie, on parle là du grand âge et du handicap, elles restent pour l'heure limitées et sont donc à renforcer. Enfin, la Cour des comptes préconise un changement de paradigme. En cas de suspicion de fraude, suspendre le versement plutôt que d'effectuer des contrôles après paiement qui conduisent à des régularisations complexes et trop longues.
Agnès Soubiran, gros malaise à l'hôpital et pas seulement budgétaire. Des conditions de travail mortifères, un management totalitaire, des alertes ignorées. France Inter et le journal Le Monde vous révélaient ce matin que trois ministres étaient visés par une plainte auprès de la Cour de justice de la République, seule à même de les juger. 19 plaignants, victimes de harcèlement ou proches de soignants qui se sont suicidés. Sont visés Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé, son ministre délégué Yannick Neuder et Elisabeth Borne, ministre de l'Enseignement supérieur. Bonjour Sarah Guibaudon.
Bonjour.
Quels sont les motifs de cette plainte ?
Harcèlement moral, violence mortelle, homicide involontaire et mise en péril de la personne. Les plaignants sont des soignants, des médecins et même un directeur d'hôpital et des veufs ou veuves de soignants qui se sont donné la mort, comme le chef des urgences de Poissy dans les Yvelines qui s'est tué dans son bureau après avoir travaillé 37 jours d'affilée, ou cet infirmier du Bas-Rhin qui a laissé une lettre pour l'inspection du travail. Des enquêtes pénales sont déjà en cours, mais leur avocate, Christelle Mazza, témoin de cette épidémie de suicide, veut monter d'un cran.
Alors déjà, il faut savoir que j'ai interpellé très officiellement Catherine Vautrin il y a plus d'un an en alertant sur les risques suicidaires et la gravité des conséquences en termes de casse sociale à l'hôpital. Je n'ai jamais reçu aucune réponse. Je pense qu'il faut qu'il y ait une enquête. On ne peut pas accepter que les gens meurent au travail ou meurent en allant à l'hôpital.
La plainte décrit des hôpitaux qui fonctionnent en mode dégradé grâce au dévouement des soignants instrumentalisés par leur hiérarchie, par ailleurs en proie à des luttes de pouvoir fratricides. On joue avec le feu depuis des années, s'indigne un dirigeant hospitalier qui souhaite rester anonyme, pour qui chaque directeur fait le maximum pour tenir le couvercle de la marmite. Les cabinets des ministres ont été à nouveau sollicités ce matin par le service politique de France Inter et ne nous ont pas encore répondu.
Sarah Guibaudon, comment trouver des ressources économiques supplémentaires. C'est la quête de chaque commune face au désengagement de l'État sur certaines dépenses, mais ce n'est pas toujours consensuel. Je vous propose de partir à Campes-la-Source, près de Brignoles, dans le Var, où le conseil municipal s'annonce assez électrique ce soir. L'équipe du maire devrait valider un projet d'installation de 50 000 panneaux photovoltaïques, de quoi rapporter 175 000 euros par an à cette commune de 2 000 habitants. Mais un collectif citoyen s'oppose fermement à ce projet qui prévoit de défricher 30 hectares de forêt. Fabien Ledu.
Dialogue impossible devant la mairie entre un adjoint et un opposant.
On flingue pas une forêt pour faire du pognon.
Il n'y a que 32 hectares. Quand même.
Georges Léculé, membre du collectif citoyen, est farouchement contre ces panneaux photovoltaïques.
Mettez-nous des panneaux sur nos maisons, partout c'est déjà entreprisé, mais ne tuez pas une forêt.
Le projet prévoit de déboiser 30 hectares, impensable pour cette habitante.
On devrait avoir honte de couper un arbre.
50 000 panneaux photovoltaïques, c'est tout un site dénaturé pour Marina, qui habite juste à côté.
Il y a 30 hectares où ils vont foutre leurs panneaux, en fait. Et tout autour, par sécurité, parce que les panneaux, ça peut prendre feu, on va sécuriser les alentours. Ils vont raser 70 hectares, hein. Tout ça pour foutre des panneaux, c'est un non-sens total.
De son côté, le maire estime que cela ne représente qu'1,3% des espaces boisés de la commune et que ce projet peut rapporter aux habitants.
175 000 euros par an de rentrée d'argent, ça fait rêver. Mon successeur, s'il peut travailler avec ce soulagement financier, il fera de bien plus belles choses.
David Clercq, qui rappelle également que le projet prévoit des compensations financières et environnementales en faveur de la biodiversité.
Un reportage Fabien Ledu, d'ici Provence. Un appel à la grève dès le 5 mai à la SNCF, à l'appel de la CGT, première organisation chez les cheminots. Des questions de rémunération pour les contrôleurs et les conducteurs. Le pont du 8 mai s'annonce donc particulièrement difficile, alors que Sudrail a appelé de son côté à une grève à partir du 7 mai. À l'étranger, Donald Trump s'est bien gardé d'incriminer directement la Russie au lendemain de l'attaque la plus meurtrière depuis le début des négociations autour du cessez-le-feu. Au moins 34 personnes sont mortes, 117 autres blessées dans un bombardement. Des civils en plein dimanche des rameaux. C'est terrible, a dit le président américain, ajoutant « On m'a dit qu'ils ont fait une erreur ». L'ambassadeur de France à Kiev, lui, n'y croit pas. Pas de hasard selon lui. Éric Biegala, ce qui est sûr, ce qu'on peut dire aujourd'hui, aujourd'hui, c'est que la Russie bombarde depuis plusieurs semaines les centres-villes.
C'est peut-être le résultat de l'engagement des deux pays de ne plus frapper les infrastructures énergétiques de son adversaire. Les missiles et les drones kamikazes russes ne visent plus, de fait, les centrales ou les relais électriques de l'Ukraine. Mais en revanche, la Russie ne s'interdit nullement d'aller frapper les centres-villes. C'était le cas samedi sur Soumy. Deux missiles de type Iskander chargés de sous-munitions ont fait explosion à proximité du centre des congrès de l'université de Soumy, un centre qui accueille normalement plusieurs cours ou clubs, y compris des cours pour enfants. Ce qu'il y a de certain, c'est que s'agissant de missiles Iskander, parfaitement précis, c'est bien le centre-ville de Soumy qui a été visé. Quant à l'emploi de sous-munitions, le missile, en fait, largue plusieurs dizaines de petites bombes. Il signale que le tireur entendait faire un maximum de victimes, et ce, en dehors du champ de bataille, s'en prenant directement à la population civile. Pareil emploi de sous-munitions dans un tir de missile sur un centre-ville avait déjà eu lieu à Kriviri, dans le sud de l'Ukraine, le 4 avril dernier. Un jardin d'enfants et plusieurs immeubles d'habitation avaient été touchés, tuant 19 personnes, dont 9 enfants.
Éric Biegala, quant à la guerre commerciale, le président américain a redit qu'aucun pays n'était tiré d'affaire face à son offensive douanière, tout en attaquant de nouveau la Chine. Il devrait annoncer dans la semaine de nouvelles surtaxes sur les semi-conducteurs entrant aux États-Unis après sa volte-face sur les smartphones et autres appareils électroniques. En France, à Vivonne, dans la Vienne, les recherches n'ont pour l'instant rien donné, toujours pas de traces d'Agathe. La jeune femme était partie faire son jogging il y a 4 jours maintenant. Les ratisseurs se sont resserrés depuis hier dans une zone de 3 km². Un escadron de 90 gendarmes est arrivé en renfort. Bonjour William Delesseux, vous êtes sur place.
Bonjour Christelle.
Et dans cette commune de 4500 habitants, les enquêteurs ont recueilli 90 nouveaux signalements.
Oui, ces témoignages et signalements sont pour l'instant les seuls éléments concrets de cette enquête, puisqu'ici sur le terrain, les recherches n'ont pas permis, vous le disiez, de retrouver Agathe Tilleret. Des dizaines de véhicules de gendarmerie sont stationnés ici près de la mairie à Vivonne. Il y a des militaires ou encore des équipes cynophiles. La zone de recherche, 3 km², 300 hectares, est en ce moment ratissée. La partie où le téléphone d'Agathe a borné pour la dernière fois jeudi est très vallonnée et très forestière. Des habitants nous le disent, ils sont prêts à participer aux recherches, comme Nathalie, la cinquantaine, et Michel, 82 ans.
Et je tiens sur les jambes. J'essaye de voir s'ils ont besoin de quelqu'un pour aller fouiller les bois. Je suis prêt à aller marcher dans les bois. Je connais les bois de la Brigue, mais je ne veux pas y aller tout seul.
Se mobiliser, oui, pour faire des recherches, bien sûr. Plus il y aura des personnes, mieux ce sera pour elles, bien sûr. Je suis inquiète. Disparaître comme ça alors qu'on fait un jogging tranquillement, enfin... Bien sûr que c'est inquiétant.
Les investigations du parquet continuent dans l'entourage familial, amical et sentimental d'Agathe, 28 ans, une santé fragile, 35 kilos pour 1m65, une passionnée de trail. Elle courait souvent 15 à 20 kilomètres et participe aux activités du club sportif Vivonne Loisirs. L'un des membres de ce club que nous avons eu très rapidement au téléphone se disait très marqué, abasourdi par la disparition d'Agathe.
William Delesseux à Vivonne avec les moyens techniques de Raymond Alboué. Et puis à l'instant, le parquet de Pontoise fait appel de la relaxe de l'enseignante accusée de harcèlement contre la jeune Evaël. L'adolescente s'était suicidée. Cette enseignante a été relaxée jeudi dernier. La prostitution des mineurs, elle explose selon la dernière étude ce matin de l'Observatoire des violences faites aux femmes. Depuis 2021, le nombre de mineurs victimes d'un achat d'actes sexuels a plus que doublé. Plus 107%. Les jeunes femmes sont les plus touchées. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Mais ça reste géographiquement très très disparate.
Oui, et c'est le département de Seine-Saint-Denis qui concentre la grande majorité des victimes, particulièrement sur cette question des mineurs, puisque 42% d'entre elles sont recensées dans le 93.
Alors, la Seine-Saint-Denis est particulièrement touchée par le proxénétisme concernant les mineurs en raison du faible coût des chambres d'hôtel, l'absence d'accueil physique dans nombre de ces hôtels, et puis un phénomène de réorganisation de réseaux de trafic de stupéfiants vers la prostitution.
Peyman Galé-Marsban est le président du tribunal judiciaire de Bobigny, où l'année dernière, plus de 60 personnes ont été jugées pour proxénétisme, certaines parfois déjà bien connues de la justice.
Il y a une porosité dans les mécanismes de délinquance avec des personnes qui peuvent être dans le trafic de stupéfiants et qui cherchent et trouvent dans le proxénétisme des réseaux lucratifs.
L'autre dimension inquiétante est le caractère de plus en plus jeune des victimes. L'année dernière, pour la première fois, l'âge médian est passé en dessous de 15 ans, 14 ans et 8 mois exactement. Mais le phénomène s'observe aussi chez les proxénètes, puisqu'au niveau national, près d'un quart des hommes mis en cause dans des dossiers d'exploitation sexuelle sont mineurs et même âgés de moins de 13 ans pour 342 d'entre eux, avec tout de même une meilleure prise en charge du problème par la justice et un nombre de condamnations définitives qui a doublé en 6 ans.
Quant aux verbalisations qui concernent les clients, désormais depuis 2016, 11 146 contraventions ont été dressées l'an dernier, un chiffre inférieur à celui de l'année précédente. Des prisons modulaires pour lutter contre la surpopulation, on est à 120% de taux d'occupation, plus de 80 000 détenus, c'est un record. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, présente ces nouvelles structures plus souples pour abriter, Ariane Grissel, les détenus condamnés à de courtes peines et ceux qui sont en fin de peine. À quoi pourrait-elle ressembler ?
Alors, ce seraient des cellules qui seraient assemblées en amont, donc ailleurs, parce que quand on dit plus souple, hein, on parle de la facilité de construction, bien sûr, pas de la structure elle-même. Ce ne seraient pas des murs en métal sur le modèle des conteneurs, mais bien en dur. Et ces bouts de prison seraient ensuite déposés sur des terrains qui appartiennent déjà à l'administration pénitentiaire, en tout cas en ce qui concerne les 1500 premières places prévues pour des détenus en semi-liberté. L'appel d'offres doit être lancé le mois prochain pour des installations dans une quinzaine d'endroits fin 2026. Puis, en juin, deuxième appel d'offres, 1500 places là aussi sur une dizaine de terrains de collectivités locales et dédiées aux courtes peines. Il faut quelques mois contre 7 ans en moyenne pour toute une prison, selon Gérald Darmanin, avec la question du coût, moitié moins cher qu'une place classique, dit le ministre. La semaine dernière, il est allé visiter une structure similaire en Allemagne qui a coûté, elle, 30% plus cher, selon les autorités locales. Autre interrogation soulevée par les syndicats, celle des moyens humains. Qui pour surveiller ces structures alors qu'il manque actuellement 7000 agents pénitentiaires.
Ariane Grissel, pour lui la littérature était une manière d'éveiller les consciences. L'écrivain hispano-péruvien prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa est mort à Lima à l'âge de 89 ans. Il disait « La littérature dissipe le chaos, embellit la laideur et fait de la mort un spectacle ». Dernier représentant de la génération dorée de la littérature latino-américaine avec Garcia Marquez ou Cortázar. Francophile, membre de l'Académie française, publiée dans la prestigieuse collection de la Pléiade, dont il était très fier. Le journaliste Jean Lebrun, que vous connaissez bien, vous, auditeur de France Inter, se souvient d'une émission qu'il avait faite avec Mario Vargas Llosa, une rockstar.
C'était un homme très élégant, doux d'aspect, même si sa parole était ferme et qui prêtait la plus grande attention aux interlocuteurs. Je me souviens d'un moment qui pour moi représente beaucoup. Je faisais des émissions dans un café argentin, latino, donc boulevard Saint-Germain, à El Sur, et j'avais convié une fois Mario Vargas Llosa. Et il y avait une foule dans le café, comme je n'en ai jamais vu à aucun des rendez-vous que j'ai pu donner aux auditeurs. Mais des gens sur le des jeunes assis par terre, au pied du maître, j'ai découvert ce que c'était qu'un écrivain français du 19e siècle. Victor Hugo devait être entouré du même engouement que Vargas Llosa par ses lecteurs latino-américains. Il représentait beaucoup plus qu'un écrivain, il était une conscience. Ça tient aussi à la détestation qu'il avait de la brutalité. Et c'est parce qu'il détestait la brutalité qu'il a détesté le colonialisme.
Jean Lebrun, interrogé par Alexis de Meyer et Emmanuel Macron salue ce matin un génie des lettres qui avait ici en France, écrit-il, une patrie. Ils n'en sont pas encore à lire Vargas Llosa, mais c'est une façon de s'y préparer. Certains enfants vont à l'école pendant les vacances. Ce sont des stages de remise à niveau pour redonner confiance à ceux qui sont en difficulté. Ce système de vacances apprenantes existe depuis 5 ans dans l'Académie de Nice. Né après le Covid, il permet aussi de gommer les inégalités, notamment dans les quartiers dits prioritaires où le niveau est traditionnellement plus faible. Fabien Fourel s'est rendu à l'école élémentaire des Moulins.
Au milieu des barres d'immeubles, la petite école d'habitude à cette période si calme.
Bravo.
Voici Mohamed, 8 ans, l'un des élèves de la session, le dernier de sa classe, heureux de venir travailler dans un endroit approprié.
À la maison, c'est moi qui dois m'occuper de tout. Je fais à manger, je m'occupe de ma petite sœur, de mon petit frère.
On révise les maths, la lecture, en jouant.
Je dois trouver qui ne parle
pas de pull rouge.
La maîtresse, c'est Estelle. Elle est volontaire depuis des années parce qu'elle trouve ce dispositif efficace.
On a beaucoup d'enfants dont les parents travaillent, mais qui n'ont pas les moyens forcément de les mettre au centre aéré ou qui ne peuvent pas les aider à faire de la lecture tous les jours.
Ces vacances apprenantes, la rectrice d'académie Natacha Chicou en fait une priorité.
La création des vacances apprenantes, elle fait suite à la crise sanitaire, à cette prise de conscience que des enfants ne sont pas égaux devant à la fois le temps des vacances, mais aussi les mercredis. Donc cette volonté de pouvoir continuer à travailler les apprentissages sur cette période.
À l'heure où la cloche sonne, Mohamed voudrait bien rajouter un dernier
ce que j'aime de par-dessus tout à l'école, c'est de me retrouver avec mes amis et après ça me rend heureux.
Des sourires à l'école comme quoi vacances apprenantes ne riment pas avec vacances ennuyantes.
Un reportage de Fabien Fourel d'ici Azur. Et si vous tiquez sur l'adjectif ennuyant plutôt qu'ennuyeux, sachez qu'il y a une nuance. D'après les linguistes, ce qui est ennuyant est contrariant et cause un désagrément passager. Et ce qui est ennuyeux est assommant et cause un désagrément constant. Il fallait que ce fût dit. Les services du ministère de l'Intérieur, comme si vous y étiez, après nous avoir livré les coulisses de la campagne présidentielle de 2012 ou encore celle de l'Élysée, l'auteur de bande dessinée Mathieu Sapin nous propose une nouvelle immersion dans À l'Intérieur, qui vient de paraître. Il raconte les 18 mois qu'il a passés dans tous les services de police et de gendarmerie. Et il s'est pris au jeu de l'uniforme, Laurélie Carrive.
D'entrée de jeu, Mathieu Sapin raconte comment il a hésité, lui, de gauche, ancien objecteur de conscience. Devait-il accepter l'immersion que lui proposait le ministère de l'Intérieur, au risque d'être accusé de propagande ? Mais la curiosité a été plus forte. « J'ai toujours rêvé d'être agent secret », écrit-il. On le suit donc en uniforme de CRS pendant les manifestations contre la réforme des retraites, à Marseille, pour sécuriser la visite du pape, à côté de ce policier déguisé en prêtre, flingue caché sous la soutane, sans oublier cette réunion de crise au ministère où l'on oublie de demander au dessinateur de quitter la pièce, Mathieu Sapin.
C'est vraiment un bunker dans le sous-sol de Beauvau. Les gens n'ont pas fait gaffe à ma présence. J'avais mis une veste peut-être, je faisais illusion. Et donc on m'a oublié. C'était pendant la crise en Nouvelle-Calédonie. Donc moi j'étais comme devant la télé. Surtout qu'on voit vraiment les échanges sincères, pas toujours amicaux, entre les ministres. J'avais l'impression d'être dans un épisode de House of Cards.
De page en page se dessine une vaste galerie de portraits, une façon d'aller au-delà des fantasmes et des caricatures.
C'est montrer les gens, pour certains très engagés, alors qu'on sait que les conditions ne sont pas forcément faciles, et montrer une espèce de visage sur une institution qui peut paraître de l'extérieur très froide, qui peut faire peur.
Le résultat, une BD très dense, parfois trop, au plus proche de son sujet et pleine d'humour.
Voilà, À l'Intérieur de Mathieu Sapin, aux éditions d'Argot. 13h26 sur France Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas, les moustiques qui sèment le chikungunya sur l'île de la Réunion, le pic de l'épidémie vient d'être atteint. Nous serons en ligne avec le directeur de l'Agence régionale de santé et avec une entomologiste de l'Institut Pasteur. Le feuilleton de la semaine nous emmène dans les petits bals populaires. Cécile Bidot a rencontré ceux qui font tourner les couples au son de l'accordéon. Un peu plus physique cette fois avec notre linguiste Mathieu Avanzi. Bonjour Mathieu.
Bonjour Christelle.
Vous revenez sur le marathon.
Hier, il y avait du monde sur le bitume et des coureurs qui, pour beaucoup, s'en sont vus. Certains ont buffé, d'autres ont fini mouligas, mais tous ont couru. Et justement, footing, jogging, running, comment nos mots font-ils la course ?
Et Frédéric Pommier, toute la semaine, nous propose des rediffusions de « C'est une chanson consacrée à quelqu'un qui maniait les mots avec tant de poésie », Jacques Brel. Voici ce qu'en dit le comédien Stéphane de Groot.
La quête, c'est que chaque jour, on se lève et on peut monter dans la fusée et aller là-bas. Et en fait, c'est ça, je crois, Brel, c'est d'aller quelque part. Après, on se trompe, on se perd. C'est pas grave. Parce que si on se plante, après, ça repousse.
Bon, on n'est pas perdu, vous êtes bien sur France Inter. À tout de suite.
Mission décarbonation avec EDF.
Décarboner les entreprises est indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour EDF, Bettina Lavaux, responsable solutions énergétiques pour les entreprises.
Chez EDF, nous nous engageons aux côtés des entreprises autour de trois types d'actions. Réguler son activité pour consommer mieux et au bon moment, électrifier ses équipements et ses process, et produire sa propre énergie renouvelable et locale.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France 2.
Madame Georges Sand.
Vous osez parler des souffrances que les hommes nous font subir ?
J'écris simplement ce que j'ai sur le cœur.
Sous un nom d'homme, elle combat au nom des femmes.
Ce que j'ai écrit vous déplaît parce que ma cause est juste ?
La rebelle, les aventures de la jeune Georges Sand. Votre nouvelle série événement, ce soir à 21h10 sur France 2 et déjà sur la plateforme France.tv.
Passe-moi.
La météo de ce lundi 14 avril.
La météo avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Des averses et des risques d'orage dans le sud du pays. Nous, on passe entre les gouttes.
Effectivement, l'après-midi de plus en plus agité du Languedoc à la Provence et la Corse jusqu'au Massif central et aux Alpes, ainsi que sur le Jura, où les averses vont se multiplier et se renforcer cet après-midi en tournant parfois à l'orage. Des averses orageuses vont également éclater sur les Pyrénées et sur l'Aquitaine. Les Bouches-du-Rhône et le Midi Toulousain seront plutôt à l'écart des averses cet après-midi et c'est en fin de journée que les averses sont attendues. Les averses vont aussi progressivement glisser vers le Poitou-Charentes et la Bourgogne cet après-midi pour se diriger vers le centre-Val de Loire et la Normandie ce soir. D'ici là, un large quart nord-est profitera d'un temps calme avec de belles éclaircies, des Hauts-de-France au bassin parisien, à la Touraine jusqu'au Grand Est. Les nuages seront plus conséquents des pays de la Loire jusqu'à la Normandie à cause d'une perturbation qui va circuler sur le nord-ouest en donnant de la pluie du côté de la Bretagne. Et puis après une forte baisse hier et malgré un temps assez perturbé sur de nombreuses régions, les maximales sont en hausse cet après-midi. Prévoyez 17 à 23 degrés en général avec 22 degrés à Bordeaux et Strasbourg, 21 degrés à Paris, Toulouse et à Lyon, 19 degrés pour Lille, Marseille et pour Tours, mais on attend seulement 12 degrés sous la pluie à Brest.
Merci Sébastien.
France Inter, le 13-14. Christelle Rebière.
L'île de la Réunion en proie à une forte épidémie de chikungunya, plan blanc déclenché. Première vaccination, mais la maladie progresse. On est face à une épidémie générale et majeure d'après Santé publique France. 27 500 cas ont été recensés depuis le début de l'année. 6 000 sur la dernière semaine de mars, sur une population de 900 000 habitants, on le rappelle. Deux personnes sont décédées et le pic vient tout juste d'être atteint. Les moustiques transmettent cette maladie, tout comme la dengue ou encore le Zika. Et il faut se méfier aussi en métropole, car le moustique tigre progresse partout. Alors, pour répondre à vos questions au 01 45 24 7000, deux invités. Annabella Fayou, entomologiste à l'Institut Pasteur. Bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes en ligne avec Gérard Cotellon, directeur de l'Agence régionale de santé sur l'île de la Réunion. Bonjour et merci d'être avec nous, monsieur Cotellon.
Bonjour.
On va commencer avec vous, évidemment. Quelle est la situation à l'heure où l'on se parle ?
La situation, c'est celle que vous venez de décrire. Nous sommes dans le cadre d'une épidémie de forte intensité. Alors, vous avez parlé de 27 000 cas, mais ce sont des cas confirmés.
Oui.
Nous, on estime à l'ARS que c'est trois fois plus, parce que tout le monde ne se fait pas dépister au laboratoire. Mm-hmm. Et quand on regarde le nombre de passages en consultation chez les médecins libéraux pour arbovirose, nous, on estime on est plutôt aux alentours de 120 000, entre 120 000 et 150 000 personnes qui ont été contaminées.
Ça fait une personne sur 8, quand même.
Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment une épidémie de très forte intensité. Les éléments d'espoir, c'est que, comme vous le dites, nous avons probablement atteint le pic. Donc là, j'attends d'avoir les chiffres.
Alors, qu'est-ce qui vous fait dire, comment est-ce que vous pouvez dire, cette fois, le pic de contamination est atteint?
On regarde un certain nombre de paramètres. Par exemple, celui qui est tout récent là, que nous avons, c'est de regarder, par exemple, le nombre de passages aux urgences qui commence légèrement à diminuer. Et donc là, on attend les chiffres pour voir, là aussi, comparer le nombre de passages en médecine de ville, le nombre de consultations en médecine de ville, et puis le nombre de cas confirmés. Donc, on va voir si ça commence à s'inverser.
Est-ce qu'il y a...
Je suis très prudent.
Mais oui, bon, voilà. On sent un optimisme prudent. Ouais. Est-ce qu'il y a, Gérard Cotellon, des parties de l'île qui sont épargnées ou pas du tout?
Non, pas du tout. Toute l'île est touchée. Ça a commencé dans le sud, où on avait des gros foyers, dans le sud de l'île, la commune du Tampon, Saint-Pierre, étant salée, et puis ça s'est étendu, malgré les interventions des équipes de lutte antivectorielle. Donc ça s'est étendu, parce que nous sommes aussi en saison de pluie à La Réunion, dans l'océan Indien. Mmh. Et donc, chaque fois qu'il pleut, on a les moustiques qui prolifèrent.
Oui, ça favorise, évidemment. Ça dure depuis quand ?
Le premier cas a été identifié le 24 août 2024. Mmh. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu de cas
on va y revenir.
Sur le territoire. Et ça a été un peu notre surprise parce qu'il y a 10 ans, on avait eu un cas importé. Sinon, l'épidémie de chikungunya à La Réunion qui a marqué les esprits, c'est vraiment 2005-2006 où là, il y a eu plus de 300 000 personnes qui ont été touchées.
Mmh. Quels sont les symptômes, Gérard Cotelon ?
Bah, ce sont les mêmes que pour la dengue. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire un diagnostic différentiel, parce que la dengue continue à circuler à bas bruit hein, sur le territoire. Hein. Bah, c'est de la fièvre.
Il y a la dengue aussi en même temps que le chikungunya. Les deux épidémies peuvent coexister.
Bah, manifestement, oui. On a des cas. Alors, en moins grand nombre que le chik, mais là, on a des cas de dengue qui commencent à apparaître. Donc, nous faisons tout pour essayer de contrôler tout ça. Et donc, les symptômes, c'est les maux de tête, de la fièvre. Oui. Dans le cas du chikungunya, des vraies douleurs articulaires. Et puis, une éruption cutanée sur tout le corps. Alors, ce que nous disent les médecins généralistes de Lille, c'est que la virulence semble moins forte que 2005-2006, où les gens étaient vraiment très empêchés pendant 15 jours à 3 semaines. Là, au bout de 4-5 jours, on voit que les personnes retournent au travail, reprennent leur activité normalement.
Mmh. Annabella Fayou, c'est le moustique tigre dont vous êtes d'ailleurs spécialiste à l'Institut Pasteur, qui est le vecteur de la maladie, mais qui est aussi le vecteur du chikungunya et de la dengue et de Zika.
En fait, celui de La Réunion, il y avait un autre moustique par le passé, c'était Aedes aegypti, qui a été éradiqué suite à des traitements scientifiques.
Oui.
Qui a été éradiqué au moment où il y a eu des traitements contre le vecteur du paludisme. Et comme le vecteur du paludisme était en ville, et que Aedes aegypti était en ville, et que Aedes albopictus, le fameux moustique tigre, était plutôt en retrait dans les régions rurales. Donc, ces traitements insecticides en ville ont éliminé Aedes aegypti, et Aedes albopictus, le moustique tigre, est venu coloniser.
Il a remplacé l'autre.
Exactement, il a remplacé l'autre. Et aujourd'hui, il est devenu l'espèce majoritaire en ville. Et c'est lui qui est à l'origine des épidémies de chikungunya. Il peut transmettre aussi la dengue et aussi le Zika.
Et le Zika, c'est plus grave encore que les deux autres ou c'est à peu près la même chose ?
Des trois, en fait, le plus grave, si on compte en termes de mortalité, c'est la dengue. La dengue est capable de tuer, alors que le chikungunya et le Zika, moins. Nettement
d'accord,
moins.
D'accord. Pourquoi, Annabella Fayou, le moustique tigre sévit-il en ce moment sur l'île de La Réunion ?
En fait, le moustique tigre a toujours été sur l'île de La Réunion depuis sa colonisation des espaces urbains.
C'est-à-dire, ça date de quand ?
Ça date, il est arrivé sur l'île, on l'a détecté pour la première fois en 1913. Et aujourd'hui, il est bien présent dans toutes les villes de la plaine côtière de La Réunion. Et il prolifère aujourd'hui, il est en grande densité parce que les conditions météo permettent à ce moustique de pouvoir proliférer. Parce qu'il y a des gîtes, des mises en eau de certains contenants qui sont favorables au développement du moustique.
Non mais alors ça, c'est une constante en fait. Donc c'est comme ça tous les ans. Pourquoi cette année, il y a cette épidémie ?
Parce qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de cycle sauvage de ce genre de virus sur l'île, donc le virus est importé. Il est importé par quelqu'un qui a voyagé récemment et qui est arrivé sur l'île de La Réunion infecté. Et comme le moustique tigre est compétent vis-à-vis du virus chikungunya, donc il a été capable d'initier une chaîne de transmission locale. Mais en fait, la plupart de ces épisodes, il faut qu'il y ait suffisamment de cas importés pour déclencher en fait des cas locaux.
Mmh. Vous confirmez, Gérard Cotelon, il a été importé ce virus cette fois, enfin ce moustique ?
Oui, je ne sais pas dire. En tout cas, pour nous, on considère que c'était un cas autochtone parce que le premier cas que nous avons eu le 24 août 2024, c'est quelqu'un qui n'a pas quitté l'île, qui n'a pas voyagé. Donc, probablement, le schéma que vient de décrire madame.
Annabella Fayou.
En fait, je me permets de préciser que le cas autochtone, il était autochtone parce qu'il a été piqué par un moustique tigre local qui s'est lui-même infecté en prenant du sang sur un cas importé.
D'accord.
Donc, il faut avoir un cas importé pour initier une chaîne de transmission. Parce que le virus, depuis 2006, n'a pas été maintenu sur l'île au sein d'un cycle sauvage impliquant des animaux qui peuvent entretenir ce virus.
Alors, revenons-en justement à ce qui s'est passé en 2005-2006, parce que Gérard Cotelon y faisait allusion. Une précédente épidémie déjà de chikungunya avait touché 260 000 personnes. Elle avait fait 225 morts. Comment vous expliquez un tel chiffre ? Annabella Fayou.
Parce que à l'époque, en 2005, la Réunion était connue pour être une île où il y avait très peu de virus liés aux moustiques. La précédente épidémie, c'était en 1977, avec une grosse épidémie de dengue qui a affecté un tiers de la population. Et vous voyez, quelques années après, une épidémie de chikungunya qui est arrivée. Et donc, pendant ce laps de temps, en fait, les personnes n'étaient pas exposées à quoi que ce soit. Mm-hmm. Donc forcément, en fait, vu l'immunité des personnes qui ne sont pas du tout protégées vis-à-vis du chikungunya, il y a eu cette explosion qui a eu lieu en 2005. Et on voit qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas à la hauteur de ce qui s'est passé en 2005.
Mm-hmm. Non, pas du tout. Gérard Cotelon, on est mieux préparé cette fois ?
Ah ben depuis, l'expérience de 2005 a permis de créer une équipe de lutte antivectorielle sur le territoire de la Réunion. D'ailleurs, c'est la plus grosse équipe de toute la France, hein, mm-hmm. avec des agents qui sont présents sur le terrain, qui interviennent. La stratégie d'intervention, c'est d'intervenir dès le premier cas sur le principe de, comment je pourrais expliquer, de départ de feu de forêt, hein. Donc on intervient tout de suite pour éteindre l'incendie. Mmh. Et puis, ils ont développé une voie expertise en la matière, mais je parle sous le contrôle de Madame Fayou. La lutte antivectorielle n'a jamais vraiment empêché une épidémie. Ça ralentit l'extension, mais bon, quand l'épidémie est partie, elle est partie.
Il faut intervenir très vite. Est-ce qu'il y a vraiment une course contre la montre, en fait ?
Il y a absolument une course contre la montre dans le sens où, en fait, le virus de chikungunya se multiplie très, très vite dans le moustique. En fait, le temps entre l'ingestion du virus via un repas de sang que quelqu'un le moustique a fait sur quelqu'un qui est infecté, et le moment où on détecte le virus de la salive de la femelle de moustique, s'écoule que 2 jours. Mmh. Alors que pour la dengue, il fait 8-10 jours.
Oui,
donc en 2 jours, on n'a vraiment pas le temps de pouvoir mettre en place une lutte antivectorielle qui soit efficace. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment aller très vite.
Gérard Cotelon, il y a 40 000 doses de vaccins qui sont arrivées il y a quelques jours. Comment ça s'organise ? Il y a un calendrier ? Vous contactez les personnes les plus vulnérables ?
Alors la vaccination a démarré selon les recommandations de la HAS. Elle a démarré le 7 avril.
La Haute Autorité de la Santé ?
La Haute Autorité de la Santé, exactement, qui a, dans ses recommandations, préconisé que l'on commence par les plus de 65 ans qui présentent des comorbidités. Ça démarre bien et en même temps timidement. C'est sur les 3 premiers jours de vaccination, on est à 2200 vaccinés. Mm-hmm. Bon, c'est pas mal, mais je pensais qu'il y aurait un engouement un peu plus fort.
Alors, vous êtes surpris, pourquoi justement ? Comment vous l'expliquez ?
Moi, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été touchés. Et que c'est ce que je vous disais en début d'entretien, c'est que les 27 000 cas confirmés, je pense que c'est 3 fois plus. Il y a beaucoup de gens qui ont été touchés et qui ne se font pas vacciner. Mmh. Et donc, nous continuons à faire la promotion parce que ça, si vous voulez, c'est un élément qui va vraiment contribuer à freiner, à arrêter l'épidémie. Donc, c'est 40 000 doses qui sont arrivées. Il y a une commande qui a été passée pour 50 000 contre-doses. Et donc, on va continuer la vaccination.
Mais il y a quand même 900 000 habitants. Donc, est-ce que ça va suffire 90 000 doses ?
On va voir. On commandera au fur et à mesure de la consommation. Comme je vous ai dit, pour l'instant, ça démarre timidement, mais voilà, ça démarre et puis on va s'adapter au fur et à mesure. Et puis, il faut que le laboratoire qui produit le vaccin puisse en produire au fur et à mesure que les besoins se font sentir.
Absolument.
Il y a un deuxième vaccin qui doit arriver.
Alors, justement, je voulais qu'on en parle avec vous, Annabella Fayou, puisque vous travaillez à l'Institut Pasteur. Il n'y a qu'un seul vaccin pour l'instant contre le chikungunya ou il y en a plusieurs ?
Il y en a deux. Oui, il y a le premier qui est développé par Valneva et le deuxième par Bavarian Nordisk. Et ces deux vaccins, ils vont être disponibles là, alors qu'il y a quand même un problème peut-être de production. Mais c'est vrai que là, dans ce cas-là du chikungunya avec ce moustique, la vaccination, c'est quelque chose à préconiser.
Mmh. On va aller au standard tout de suite rejoindre Véronique. Bonjour.
Bonjour.
Vous habitez à Toulon et vous avez une question pour nos invités.
Oui, alors voilà, moi je dois me rendre donc à La Réunion là dans un mois. Mm-hmm. Et j'ai l'impression qu'en France, enfin ici sur à la métropole, il n'y a aucune possibilité de se faire vacciner à moins de payer un prix assez exorbitant.
C'est-à-dire
à savoir, moi j'ai vu sur internet que c'est dans les 200 euros, je pense, par personne. Et donc comment est-ce que voilà comment ça va se passer pour tous les touristes qui vont aller à la Réunion voilà, c'est une question qui pourrait intéresser tout le monde.
Absolument. Annabella Fayou, d'abord.
200 euros.
200 euros la dose, oui, c'est coûteux. Il faut avoir plus de 65 ans pour pouvoir être vacciné
gratuitement.
En fait, il y a toutes les mesures classiques vis-à-vis du moustique-tique, c'est-à-dire se protéger des piqûres. Je pense que c'est facile de le dire, mais qu'il faudrait garder les mêmes réflexes que vous à Toulon vis-à-vis du moustique-tique, parce que c'est quasiment le même.
Se faire vacciner, sauf à payer 200 euros avant de partir ?
On ne peut pas se faire vacciner à moins de payer, oui.
D'accord. Et quand à l'arrivée, c'est la même chose, Gérard Cotelon, c'est le même prix si on n'a pas de comorbidité ou si on n'a pas plus de 65 ans ?
Oui, à La Réunion, le vaccin, c'est entre 160 et 220 euros, si nous ne sommes pas dans les critères de la HAS. D'ailleurs, avant que ça démarre... officiellement, sur le territoire de La Réunion, il y a à peu près 2600 personnes qui se sont faites vacciner de leur propre chef. C'est un vaccin qui, pour l'instant, n'est pas remboursé par la Sécurité sociale.
D'accord.
Tout simplement parce que le labo n'a pas fait la demande auprès de l'assurance maladie. Hein. Donc, je pense que ça va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas pris en charge.
Juste avant qu'on se quitte, il y a 120 militaires qui sont déployés à partir d'aujourd'hui sur l'île. Il y a des renforts qui ont été envoyés pour mener des opérations de démoustication. C'est ça l'urgence, Gérard Cotelon ?
Oui, il faut continuer à travailler sur la démoustication. Comme je vous ai dit, nous sommes en saison des pluies et quand il pleut à La Réunion, il pleut très fortement et beaucoup. Donc, tout ce qui peut constituer des réserves d'eau constitue des gîtes larvaires potentiels et il faut pouvoir intervenir. Donc, c'est 120 militaires exactement, mais il y a aussi nos agents de lutte antibactérielle, à peu près 200 agents, et plus il y a 400 personnels que parcours emploi compétences, ce sont des emplois subventionnés par l'État qui sont sur aussi cette lutte antivectorielle. C'est à peu près 700 personnes qui sont mobilisées justement pour la destruction des gîtes larvaires, mais aussi pour faire de la mobilisation citoyenne. C'est-à-dire expliquer à la population que la destruction des gîtes larvaires vraiment contribue à la lutte antivectorielle et il faut que la population y participe.
On fait de la pédagogie, on vaccine et voilà. Et merci beaucoup et on démoustique aussi en même temps. Merci à vous deux, et Annabella Fayou, et merci à vous, Gérard Cotelon, en direct de l'île de La Réunion. Avec le printemps, c'est le retour des guinguettes. Notre feuilleton nous emmène à la rencontre des musiciens de bal populaire, de dancing, de baloche. Bref, de ces hommes et ces femmes qui passent leur vie à vous faire danser au son de l'accordéon. Une semaine dans leur vie et dans le Berry jusqu'à vendredi. Premier épisode avec l'orchestre Dominique et Stéphanie Floquet, basé dans l'Indre. Ça fait 30 ans que le frère et la sœur font guincher la France. Cécile Bidot commence par parcourir des photos souvenirs avec eux.
Heureusement qu'il y a des dates sur les photos, parce que putain, je m'en rappelle pas de tout.
Oh, il y a eu des trucs.
Vous avez sorti les vieux dossiers, là.
Là, c'est très vieux.
C'est vraiment dans les débuts, en 94, oui.
J'ai commencé à l'âge de 13 ans.
Et vous, Stéphanie ?
Eh ben moi, j'ai commencé, alors le solfège, j'ai 7 ans, et on a commencé à faire les balles, j'avais 9 ans.
Eh ben, donc, moi, je m'appelle donc Dominique Floquet, voilà. Je suis accordéoniste. Et puis, ma sœur.
Eh ben, moi, c'est Floquet Stéphanie. Moi, c'est principalement la batterie. Accessoirement, je fais de la vielle, aussi, qui est mon instrument de base traditionnel de chez nous. Donc, il y a ça, il y a la cornemuse, et depuis peu, le cor de chasse.
On a commencé tous les deux donc, dans une harmonie municipale, hein, chez nous, là, dans le Cher. Tous les deux au saxophone. Et puis après, voilà, donc accordéon et ma sœur batterie. Et puis, je pense qu'il y avait déjà une envie de faire du bal populaire. Parce que, bon, chez nous, c'était quand même assez ancré, on va dire. C'est quand même quelque chose d'assez traditionnel. Puis voilà, en voyant des collègues faire à l'époque, je crois que c'est ça qui nous a déclenché le goût de la musique et du bal populaire.
On voit le petit nœud papillon, là.
Ouais,
hein.
Oui, parce que j'ai eu l'occasion de faire l'émission La Chance aux Chansons. Voilà.
Ah, c'était en quelle année,
avec
ça ?
Pascal Sevran, en 2000.
François Mazenas, c'est tout le département, parce que Dominique Floquet, également, nous propose un tcha-tcha-tcha dans le Cher.
C'est surtout nos parents qui nous ont demandé ce qu'on voulait faire comme loisir. Et le sport n'était pas du tout l'objectif. Et donc on a fait la musique. Et non, j'ai suivi mon frère parce qu'on a 4 ans d'écart. Donc voilà.
Et c'est devenu plus qu'un loisir.
Et oui, c'est devenu après une passion et un métier. Depuis 30 ans cette année.
Vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 38 ans et demi.
Et vous, Dominique ?
Ben, je vais en avoir 43, oui.
Est-ce que vous vous souvenez de votre premier concert ou de votre première prestation ?
Oui, bien sûr. C'était l'animation du repas des anciens voilà, de la commune, donc, voilà, dans notre village natal, le Châtelet-en-Berry, voilà, dans le Cher. Évidemment, c'est un souvenir qui reste. Hein.
Et ça s'était bien passé ?
Très bien. Ouais, peut-être la boule au ventre, mais je ne sais même pas, parce que finalement, quand on est jeune, je crois qu'on se rend un peu moins compte des choses. La boule au ventre est peut-être venue un peu plus tard.
Vous avez eu du succès tout de suite ?
C'est sûr, en étant enfant, il n'y avait peut-être pas une tonne d'orchestre dans le coin qui était si jeune que nous. Je n'ai pas de souvenirs. Après, effectivement, on a commencé à deux, et après, on a évolué petit à petit, on est passé à trois.
Et donc, à quel moment vous basculez dans le professionnel ?
Alors, réellement, intermittent du spectacle, c'est en 2006. Voilà. Parce que moi, j'ai fait l'école agricole. Nos parents étant paysans. Élevage de vaches, donc, charolaises.
Nos parents ne nous ont pas poussés là-dedans non plus. Hein. Ils ont vu qu'on avait quand même une situation assez stable, entre guillemets, avec la musique. Ils sont assez fiers aussi de ce qu'on a fait. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont laissé faire ce qu'on avait envie de faire, en fait.
Quel plaisir vous prenez à animer des bals populaires ?
C'est le plaisir de faire danser les gens, de voir les gens heureux, vraiment. Et c'est vrai que quand on applaudit à chaque fin de morceau, c'est encourageant, c'est le top, quoi. Ça fait envie de continuer, ça fait envie de les faire danser encore plus, quoi.
C'est le milieu de la fête, voilà, les gens, je pense, laissent un petit peu leurs soucis chez eux. Et puis, on vit vraiment à fond pour ça, quoi.
Cécile Bidou avec Stéphane Ronxin, la réalisation, et demain nous serons en coulisses avec eux.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, votre rendez-vous du lundi à 13h50. Nous sommes avec notre linguiste spécialiste du français régional, Mathieu Avanzi. Mathieu, hier c'était le marathon de Paris et vous avez eu envie de troquer les baskets pour un peu de vocabulaire. En gros, vous nous proposez aujourd'hui de courir avec les mots.
Commençons par le mot marathon, un mot qui désigne une course à pied bien particulière, 42 km et 195 mètres, une distance très précise et pourtant un mot qui vient d'une vieille légende. Au 6e siècle avant notre ère, un messager grec aurait couru de la ville de Marathon, jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire contre les Perses. Arrivé à bout de souffle, il se serait effondré, mort d'épuisement. Une performance tragique mais fondatrice. Et à côté de cette épopée antique, on trouve des mots plus récents, footing, jogging, running, des anglicismes passé en français à des époques différentes et qui, contrairement aux apparences, ne veulent pas forcément dire la même chose.
Ah bon ? Pour nous, c'est un peu... Tout semble pareil, non ?
En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces mots s'entremêlent un peu, mais à l'origine, chacun a son histoire. Le plus ancien, c'est footing. Il apparaît dans les années 60 et il désigne alors une pratique douce, on peut presque dire hygiénique. On allait faire un petit footing comme on allait prendre l'air. Dans les années 80, arrive le jogging, emprunt direct à l'anglais to jog, qui signifie trotter. Là, la pratique devient plus régulière, plus stylée aussi. On entre dans l'ère des survêtements fluo, des bandeaux et des baladeurs à la ceinture. Dans les années 2000, commence le règne du running, plus technique, plus sérieux aussi. Fini le jogging en basket, place aux chaussures de running et au training plan ou training plan. On fait attention à son timing, on compte ses splits et on n'oublie pas son cool down.
Yeah.
Mais ce qui est fascinant, c'est que ce glissement lexical se fait sans la moindre résistance régionale. Le concours, le marathon iodé de La Rochelle ou celui qui suit les pourtours du lac d'Annecy, on fait tous du running. Alors, en sociolinguistique, on dit qu'on a un véritable cas d'école. Le vocabulaire importé du monde anglo-saxon est adopté dans toute la francophonie sous l'influence des médias et des réseaux sociaux.
Mais alors, Mathieu, si les mots sont les mêmes partout, comment est-ce qu'on dit qu'on souffre, qu'on rame, qu'on en bave ?
Alors là, les variantes géographiques réapparaissent, parce que dès que l'effort se fait sentir, les langues régionales reprennent leur souffle. Dans certaines régions du grand sud de la France, par exemple, on ne dira pas « les 10 derniers kilomètres étaient atroces », mais plutôt « sur les 10 derniers kills, je m'en suis vraiment vu ». Et quand les jambes commencent à lâcher, les images se multiplient en Belgique, en Suisse, comme dans plusieurs régions de France, on a les jambes en flanelle, en cannelle, en guenille, en guimauve, voire en pâté de foie. Au Québec, on a même les jambes en marshmallow. C'est dire si elles ne tiennent plus à grand-chose. Dans l'Ouest, à la fin d'un marathon, on ne dira pas simplement qu'on est essoufflé, on dira qu'on buffe. En Occitanie, on peut finir la course estarouillée, c'est-à-dire la terminer complètement à plat. Dans le Nord, on finit mat. En Alsace-Lorraine, on arrive schlass, comprenez, complètement épuisé. Et ce matin, chers marathoniens, si vous n'avez pas eu la force d'enfiler vos baskets ou vos chaussures de running, c'est peut-être que vous étiez un peu trop mouligasse, un mot qui vient de l'occitan et qui signifie tout mou. On l'emploie à l'origine pour parler d'un fruit trop mûr ou pour quelqu'un qui n'a plus la pêche.
En tout cas, ce n'est pas votre cas, Mathieu, vous n'êtes pas mouligasse. À lundi prochain. De C'est la France, c'est une chanson avec une semaine spéciale dédiée à Jacques Brel. Frédéric Pommier a remixé pour nous certaines de ses chroniques. Aujourd'hui, nous réécoutons son entretien avec l'humoriste, auteur et comédien Stéphane De Groot. Il avait choisi d'évoquer La Quête, une chanson de 1968, extraite de la comédie musicale L'Homme de la Mancha.
En fait, c'est mon beau-père qui était médecin qui m'a fait découvrir Brel. Au début, j'écoutais ça, je me demandais un peu ce qui se passait. Tout comme Raymond Devos aussi, au début, je ne comprenais pas bien. Et puis j'ai compris ce que je n'avais pas compris. J'ai compris qu'il y avait quelque chose à comprendre. Et donc c'est une quête, voyez-vous. C'est un chemin.
Vos copains, ils n'écoutaient pas Brel ?
Mes copains n'écoutaient pas Brel, non. Ils écoutaient des trucs, des chansons où j'avais l'impression d'être totalement étranger à tout ça. Je ne comprenais pas, je n'étais pas connecté, en fait. Ce n'est pas que j'étais pas connecté, j'étais déconnecté. J'avais vraiment l'impression de marcher à côté de tout. Alors à l'époque, ça me gênait, mais aujourd'hui, ça ne me déplaît pas, en fait, de marcher à côté. Parce que dès que vous êtes à côté, vous voyez mieux les choses.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre.
C'est physique quand on reçoit une chanson qui nous touche.
Bah, c'est-à-dire que ça vous transperce, quoi. Ça vous habite, ça met vos sens en éveil. C'est un peu ça le principe de l'art. Mais vous regardez un tableau, vous écoutez une chanson, vous regardez un film. L'émotion, c'est ça. C'est que ça part des pieds à la tête, ça vous transcende même. C'est pas que vous devenez quelqu'un d'autre, mais ça révèle des choses en vous. Parfois que vous ignoriez.
Sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile.
Il y a tout là-dedans. Il y a la force, il y a l'espoir, il y a une envie d'envie. C'est une manière de dire qu'il faut y aller, il faut aller décrocher les étoiles, il faut aller au bout de ses rêves. Pour moi, chaque jour est une nouvelle vie. Il peut se passer mille choses en une journée. On peut mourir, on peut faire des enfants, on peut se marier, divorcer, changer de destinée à tout moment de la journée. Donc pour moi, on a autant de vie qu'on a de jours dans notre vie.
Vous le pensez vraiment ?
Ah ben, je suis complètement investi de ça. Et donc la quête, c'est ça, c'est que chaque jour... On se lève et on peut monter dans la fusée et aller là-bas. Et en fait, c'est ça, je crois, Brel, c'est d'aller quelque part. Après, on se trompe, on se perd. C'est pas grave. Puis si on se plante, après, ben, ça repousse.
Cette chanson-là, elle appartient aux chansons que votre beau-père vous a fait découvrir ?
Oui. Quand il est mort, on l'a mise à son enterrement. En fait, en toutes circonstances, je trouve que cette chanson fonctionne. Que ce soit pour célébrer quelqu'un qui s'en va ou célébrer quelqu'un qui arrive.
Suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour.
Est-ce que vous avez des souvenirs précis de circonstances où vous l'avez écouté, hormis les obsèques de votre beau-père ?
Oui. Il y a quelques semaines, je me suis lancé un défi. Dans ma vie d'avant, j'étais pilote de course. Je me suis arrêté juste avant la Formule 1. Et puis je suis devenu comédien. Et il y a quelques mois, j'étais en contact avec les gens d'Alpine qui m'ont proposé de faire une course ou deux ou trois dans leur coupe Alpine. Et puis à un moment donné, ils m'ont demandé ce que j'avais envie de faire. J'ai dit, mais moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est quand même rouler dans une Formule 1 un jour. Ils m'ont dit, si on aménage quelque chose, on pourrait imaginer que tu roules dans la Formule 1 d'Esteban Ocon. Et puis je suis sorti de ce rendez-vous et je me suis mis la quête. J'étais dans ma voiture. Et quelques semaines plus tard, effectivement, je roulais dans la Formule 1. Et ça fera l'objet d'un documentaire d'ailleurs. Ça va s'appeler De la piste aux étoiles. Mais vous voyez, déjà même dans le titre, il y a du Brel là-dedans.
Je pensais pas que Jacques Brel pouvait nous amener à la Formule.
Oh, mais Jacques Brel a eu de très bonnes formules.
L'inaccessible étoile.
Jacques Brel, La Quête, c'était donc le choix de Stéphane de Groot au micro de Frédéric Pommier. Une interview que l'on avait déjà pu entendre une première fois en janvier 2023.